Nous allons aujourd'hui présenter un ouvrage intitulé « Ces gens du Nord qui ont fait l'histoire ». La personne qui l'a écrit s'appelle Hervé Leroy. Bonjour Hervé Leroy.
Bonjour.
Donc un ouvrage qui, j'allais dire, passe en revue d'une certaine manière, peut-être avec une cohérence que vous allez nous expliquer. 50 personnages de l'histoire qui sont entrés par un petit bout ou un grand bout dans l'histoire et qui ont apporté leur touche au panorama historique de la région, Hauts-de-France, on peut dire, pour dire les choses largement.
Oui, c'est tout à fait ça. Il y a une galerie de 50 portraits, de 50 personnages, de 50 histoires qui couvrent un peu toutes les époques, qui commencent avec comme la Trébate, qui est le premier à résister aux troupes de César, jusqu'à la période contemporaine avec Pierre Mauroy, Alain Decaux, Marguerite Yourcenar. Et l'idée, c'est aussi que cette région des Hauts-de-France est une région carrefour, c'est une région de plaine qui a été au centre de tous les conflits tout au long de l'histoire. C'est aussi une région d'où on est venu de partout pour travailler. C'est une région forte, une région carrefour et qui a produit des destins exceptionnels. Et l'idée, c'était de raconter ces destins au travers l'ouvrage.
Dans cet ouvrage, effectivement, on a différents types de personnes qui ont apporté des contributions très différentes, un panorama donc assez complet. Il y a des personnages dont on peut être fier et d'autres moins.
Oui, prenons tout de suite effectivement le cas le plus extrême. Charles de Gaulle, qui est né à Lille, rue Princesse, qui se définit lui-même comme un Lillois, comme un nordiste. Et puis ce qui était le plus difficile pour moi à traiter, c'était le maréchal Pétain, effectivement, qui est nordiste d'origine, qui est né à Cauchy, à la Tour, près de Bruay-la-Buissière, qui est enraciné dans le Nord, à Hesdin, à Arras. Et effectivement, c'était la chose la plus compliquée à traiter, avec l'idée aussi que finalement, Charles de Gaulle et Pétain se rencontrent énormément entre les deux guerres. Charles de Gaulle est dans le régiment de Pétain. Lorsque Charles de Gaulle est fait prisonnier pendant la Première Guerre mondiale, on le pense pour mort. Et c'est Pétain qui rédige la fiche comme quoi Charles de Gaulle est disparu et que c'était un excellent officier. Et puis le plus rigolo entre guillemets, c'est que Pétain est élu à l'Académie française au nom de sa seule gloire littéraire. Il n'a jamais produit aucun livre. Bon, il essaye quand même de produire un livre. Et le nègre de Pétain à l'époque, c'est Charles de Gaulle.
Alors ça, c'est ce qu'on apprend dans le livre. On apprend aussi que Charles de Gaulle a essayé de republier ce qu'il avait écrit pour Pétain en son nom et que ça n'a pas fonctionné.
Effectivement, quand le livre ne paraît jamais, Charles de Gaulle essaye de récupérer son manuscrit auprès de Pétain, qui là l'envoie promener comme un freluquet. Et c'est la première fois où véritablement les hommes se séparent. Et puis, bien sûr, ça ira de plus en plus loin.
Dans les grands personnages aussi de la République, on pourrait parler de Maurice Thorez, par exemple.
Oui, alors l'idée également de l'ouvrage, c'était d'équilibrer en fonction de toutes les sensibilités politiques qui ont marqué la région. Et Maurice Thorez, né à Noyelles-Godeau, un homme du Nord, un mineur, dont le rôle a été extrêmement important, notamment au retour du RSS en 45-46, où, avec le général de Gaulle d'ailleurs, il lance la bataille du charbon qui permettra à la France de se reconstruire. On peut dire que ce sont les mineurs, les hommes du Nord, qui ont reconstruit la France.
Voilà, avec un passage aussi sur l'industrie minière, les étrangers qui sont venus donner un coup de main pour produire et puis pour enrichir la France et notre région, mais plutôt la France d'ailleurs.
Oui, la mine, un sujet extrêmement fort, extrêmement riche. Il était difficile d'extraire tel ou tel personnage. Et dans l'ouvrage, je traite l'aventure du charbon comme une gigantesque fresque de la découverte du charbon à Fresnes-sur-Escou, lorsque le traité d'Utrecht ferme les frontières et qu'on est privé du charbon de Charleroi, et les premières recherches jusqu'à la dernière gaillette qui remonte à Oigny. Oigny, où d'ailleurs on avait découvert le charbon pour la première fois dans le Pas-de-Calais. Et c'est vrai que c'est aussi un hommage à tous ces hommes qui ont travaillé au sein de la mine, qui se sont battus, qui ont défendu leurs droits aussi, les syndicalistes, et puis ces hommes venus de partout, de Pologne, ensuite du Maghreb, du Maroc, travailler au fond, un métier extrêmement, extrêmement difficile, et puis où on se rend compte également qu'il y avait une forme très, très forte de solidarité entre les hommes.
Alors, on a aussi quelques maires de la région qui ne sont pas passés inaperçus, pas forcément en tant que maires, mais en tant que lois qu'ils ont contribué à valider d'une certaine manière. Je pense à Roger Salengro.
Oui, Roger Salengro, qui est ministre du gouvernement du Front populaire en 1936, qui est en première ligne parce que c'est le ministre de l'Intérieur de Léon Blum, et qui sera sans doute sans aucun doute l'une des premières victimes de ce qu'on appellerait aujourd'hui les fake news, les rumeurs, avec une campagne de presse éhontée sur le fait qu'il aurait déserté pendant la Grande Guerre et qui finalement se suicidera dans son appartement ici à Lille. Son enterrement sera l'occasion pour les Lillois de se réunir, une des plus grandes foules qu'on ait jamais vues à Lille, avec quelque chose qui situe le personnage la veille de son suicide, qui est un suicide au gaz, à la gazinière, dans son appartement. Roger Salengro laisse un petit mot pour sa femme de ménage qui sait qu'elle viendra le lendemain matin, un petit mot où il met simplement « excusez-moi pour ce désagrément ».
Donc Hervé Leroy, nous sommes toujours dans l'exploration de ce livre « Ces gens du Nord qui font l'histoire » et donc parmi les petites phrases et les grandes phrases peut-être, j'en ai une qui est d'ailleurs du général de Gaulle, et ce qui est assez étonnant, c'est quand il a dit « la vieillesse est un naufrage », voilà, est-ce qu'il en aurait quand même retenu la leçon ou pas? Parce que finalement, sa fin de parcours a été un peu chaotique au général.
Oui, cette phrase a été prononcée à propos de Pétain. Oui, et en même temps, je pense qu'après 68, le général de Gaulle se sait peut-être en décalage avec la société française. Et la manière dont il lance le référendum de 69, à l'issue duquel il quittera le pouvoir, quelque part, c'est pas un acte, pas suicidaire, mais quelque part, je pense qu'en son fort intérieur, il sait qu'il risque de perdre ce référendum, et ça a été une manière pour lui de sortir la tête haute.
Alors, de Gaulle a été un visionnaire. À la fin, c'était moins évident. Et là, il y a quelqu'un qui était visionnaire à l'époque où il était jeune, et peut-être qu'il est resté longtemps. C'est quelqu'un qui est bien décrit donc dans Ces gens du Nord qui font l'histoire, c'est René Dumont.
Oui, alors j'ai découvert, je ne savais pas, en rédigeant le livre, que René Dumont était cambrésien. René Dumont est né à Cambrai et il a beaucoup travaillé sur le secteur du Nord. C'est un ingénieur agronome et ses premiers travaux, ses premiers écrits sont sur la Vénois, sur le système du bocage dans la Vénois. Et René Dumont a été visionnaire. Les plus anciens se souviennent de cette campagne présidentielle 74 où est apparue cette espèce de d'huluberlu en pullover rouge avec un verre d'eau sur la table qu'il buvait à la fin de chaque spot de la campagne présidentielle. Et qui disait « un jour on manquera d'eau ». À l'époque, tout le monde ne le prenait pas au sérieux. René Dumont partait faire ses meetings en vélo, se déplaçait en vélo, et ça a été véritablement le premier à faire émerger l'écologie politique sur la scène politique.
Alors, parmi les personnages intéressants, évidemment, on pourrait citer des artistes comme Matisse.
Oui, alors l'idée aussi, au travers le livre, c'était d'équilibrer entre les hommes politiques, les artistes, les scientifiques, voire les sportifs, puisque je suis un ancien journaliste de sport. Pour ce qui concerne les artistes, c'est vrai que Henri Matisse est incontournable, né au Cateau Cambrésis, grandi à Bohain, à quelques kilomètres du Cateau, et qui est resté toujours très, très, très attaché au Nord. La preuve, c'est que Matisse lègue à la ville du Cateau une grande partie de sa collection, qui sera à l'origine du musée Matisse qu'on connaît aujourd'hui. Aragon définit très bien, dans le roman de Matisse, l'artiste qu'il est, un artiste du Nord, qui est sensible aux couleurs du Nord, qui est aussi sensible aux couleurs des tissus, né de l'industrie textile du Nord, et qui se dirigera vers la lumière du Sud. Matisse fait véritablement le pont entre les deux lumières.
Alors, un dernier chapitre, pas de ce livre, mais de notre conversation, qui sera peut-être l'objet d'un nouveau livre, c'est « Et les femmes dans tout ça ?».
Alors, les femmes sont présentes quand même dans ces gens du Nord qui ont fait l'histoire. La première d'entre elles, c'est Marguerite Yourcenar, première femme élue à l'Académie française. Elle grandit sur les pentes du Mont-Noir. Il y a également des femmes qui ont été des femmes de pouvoir dans la région, comme Maud d'Artois, comme Jeanne de Flandre, ici à Lille. Et auparavant, juste avant les gens du Nord qui ont fait l'histoire, j'ai commis un livre qui s'appelle « Femmes d'exception en Nord-Pas-de-Calais » et qui était une manière de rendre hommage aux femmes, sans oublier une femme qui me semble extrêmement importante dans ces gens du Nord qui ont fait l'histoire, qui vient de donner son nom à un collège de Lille, qui est Martha Desrumaux. Il y a une association actuellement qui lutte pour son entrée au Panthéon. Martha Desrumaux, qui a un destin exceptionnel, qui travaille en usine textile dès l'âge de 12 ans, qui ne sait ni lire ni écrire, qui devient syndicaliste, qui devient une des premières femmes accédant au secrétariat général du Parti communiste, qui joue son propre rôle dans La vie est à nous de Jean Renoir, qui est déporté à Ravensbrück et qui, à Ravensbrück, organise encore une certaine forme de résistance, de solidarité entre les détenus, qui sera rescapé, qui reviendra et qui terminera sa vie ici à Lille comme adjointe au maire.
Voilà, ben je pense que là, il y a vraiment beaucoup de matière dans tous ces ouvrages et bien sûr des suites à venir. Merci Hervé Leroy et donc tenez-nous au courant de vos prochains travaux.
Un grand merci à vous René, à bientôt, merci.